des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans le studio de Canal Académie, j'ai le plaisir de recevoir deux éminents linguistes. Giovanni Dottoli, bonjour Giovanni Dottoli. Merci
bonjour,
d'avoir
Madame
accepté
Renard.
Notre invitation. Nos auditeurs ont l'habitude de vous entendre sur Canal Académie. Ils savent que vous êtes professeur de langue et de littérature française à l'université de Bari, qui est dans le sud de l'Italie. Et tous les deux, nous avons le grand honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Rey. Et je vous souhaite aussi la bienvenue à Canal Académie.
Merci, le plaisir est partagé.
Merci infiniment. Giovanni, c'est vous qui connaissez particulièrement l'œuvre, le parcours, la pensée d'Alain Rey. Alors, je vous cède volontiers la parole.
Merci Hélène et bonjour à tous les auditeurs de Canal Académie. C'est vraiment un grand honneur et un plaisir surtout d'être là avec mon grand ami Alain Rey, que je considère, je le dis immédiatement, l'un des plus grands linguistes ou lexicographes ou métalexicographes ou inventeur, artisan, créateur de dictionnaires. Je pourrais même dire, pour commencer, que, disons, toute la deuxième partie du XXe siècle et les 10 premières années du XXe sont marquées par l'action, le travail, la sagesse et l'invention d'Alain Rey dans le domaine des dictionnaires. Alors, Alain, bonjour.
Bonjour.
Je pense que les auditeurs sont très intéressés à savoir comment tu es entré dans ce monde difficile, compliqué et de rêve en même temps qu'est le monde des dictionnaires.
Je vais peut-être décevoir, mais j'y suis entré par hasard. C'est-à-dire que...
Mais le hasard fait bien les choses.
Le hasard peut faire très bien les choses. Un jour, j'ai trouvé dans Le Monde, j'étais étudiant... J'avais quelques activités professionnelles du côté du journalisme, mais assez partielles. Et je cherchais ma voie, comme on dit. Et j'ai eu dans Le Monde cette sorte de déclic qui était qu'on cherchait quelqu'un pour des travaux paralittéraires. Je ne savais pas très bien ce que l'on entendait par là. En la ville d'Alger, qui était alors française, et où quelqu'un que je ne connaissais pas encore commençait à travailler sur un grand dictionnaire de la langue française. Heureusement, si c'eût été l'arabe, j'aurais été bien incapable d'y participer. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de se lancer dans ce domaine, puisque mes activités et mes goûts sont multiples. Je faisais beaucoup d'histoire de l'art et j'aurais adoré continuer la tâche admirable de Prosper Mérimée au XIXe siècle, c'est-à-dire être inspecteur des monuments historiques. Mais le nombre de places disponibles étant voisine de zéro, j'avais très très peu de chance d'y parvenir. Donc je me suis dit, tiens, à propos, autour de la littérature, paralittéraire, ça va peut-être être intéressant. Et puis le fait que ça se fasse hors de France, dans un pays multiculturel, à tradition arabe, mais aussi à passé glorieux romain, ça peut être intéressant de voir comment c'est vécu et ce qui se passe. Et puis on m'a montré le premier fascicule du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
qui était
de Paul
bien
Robert.
Sûr, ce monsieur était Paul Robert, bien sûr.
C'est ça, par Paul Robert, jeune avocat d'Alger, qui avait été président des étudiants de sa ville, et qui était assez actif, et qui tout d'un coup s'est détaché de ses activités professionnelles pour se lancer dans cette activité bizarre qu'est le dictionnaire, en espérant être le successeur d'Émile Littré. Et il avait appelé sa société d'édition
il ne le savait pas,
Nouveau Littré.
Voilà. Mais il avait déjà trouvé, à ce moment-là, le successeur de Littré et Larousse. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Alain Rey.
Mais personne ne le savait, ça.
Oui, personne ne le savait. Toi non plus, probablement.
Moi non plus, pas du tout.
Vous aviez quel âge, Alain Rey, à cette époque?
J'avais 24 ans, 25 ans.
Et vos études vous portaient particulièrement vers la langue française ou
Mes études étaient multiformes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'histoire de l'art, notamment l'art du Moyen-Âge.
Qui était et de la musique aussi.
De la musique aussi, de la littérature française, mais aussi de la littérature américaine, où j'ai un certain nombre de diplômes. J'étais un grand amoureux de l'œuvre de Henry James et je m'étais un peu lancé dans l'ancien français, mais là avec moins de succès. Mais ça, tout de même, ça m'a donné l'idée que la littérature française que nous adorons tous et que nous lisons ne s'arrête pas au moment où nous ne comprenons plus les textes. C'est-à-dire qu'entre le 11e et le 16e siècle, il se passe des choses admirables et que avant Rabelais, avant Montaigne, avant Ronsard, il y a des écrivains extraordinaires.
Il y a un certain Villon, un certain Rudebeuf.
Oui, et avant Villon et Rudebeuf, il y a Marie de France, Charles d'Orléans,
il
y a Chrétien de Troyes, la légende bretonne, enfin des choses absolument admirables qui ont un impact sur toute la littérature européenne et qui, tout en étant très proche à nos cœurs, parce que c'est quand même l'esprit profond de la langue française, est très difficile d'accès parce que c'est une langue qu'il faut apprendre. On ne la sait pas spontanément. Voilà.
Et je pense que là, cette occasion d'entrer dans un monde, le monde du dictionnaire, avec ce bagage culturel d'un jeune, bien sûr, 24 ans, mais qui en même temps avait cette ouverture sur la musique, sur la littérature, sur les arts, sur la langue française du Moyen-Âge. Et donc ça a immédiatement donné, je pense, une ouverture au projet de Paul Robert, qui au début n'était pas tout à fait très ouvert. Il ne savait même pas ce qu'il devait faire.
Il était ouvert autrement, c'est-à-dire que Paul Robert était parti de considérations qui étaient plus matérielles, je dirais, parce que sa famille le destinait à tout autre chose, qui était de gérer des grandes propriétés agrumicoles, donc des champs d'orangers. Et il s'intéressait beaucoup à la technique de la culture et de l'utilisation, disons, de ces fruits, avec le problème des jus de fruits, etc. Il avait été aux États-Unis, en Californie, avec son père, pour se former, parce que c'était la Mecque des fabricants de jus de fruits, et ça l'est toujours d'ailleurs, et il en avait ramené une impression étrange qui était que pour maîtriser quelque activité que ce soit, il fallait maîtriser le vocabulaire. Et que pour maîtriser le vocabulaire, pour passer du français à l'anglais, il y avait le problème de la traduction, il avait aussi été jeune garçon sous les drapeaux au service du chiffre. Et ces idées de code, de traduction, de rectitude de désignation, comme en plus il était juriste et de formation d'avocat, étaient pour lui le point de départ. Alors, naturellement, il avait orné cela de citations littéraires, mais c'était son propre goût, qui était le même que le nôtre, en gros, jusqu'au début du XXe siècle. Et là, ça divergeait un petit peu, parce que là où j'aimais Raymond Queneau, lui préférait Pierre Benoît. Ce n'était pas tout à fait la même chose.
Et là, nous venons déjà là, immédiatement à un aspect essentiel du nouveau Robert. Paul Robert inventé son Robert. Toi, immédiatement, tu rencontres avec tes collaborateurs, jeunes collaborateurs, je pense, qu'il fallait suivre un autre chemin. Et donc, ouvrir la langue française à toute son histoire, à tous ses écrivains, les grands et les petits, aux femmes, à la littérature populaire.
Populaire, féminine.
Féminine.
Aux emplois du français hors de France, qui est une chose fondamentale pour moi.
Le français hors de France, ce sont des marques qui seront les grandes qualités de tous les dictionnaires que tu as dirigés ou auxquels tu as coopéré. Alors, comment s'est opéré ce passage du premier Robert? Et ça se voit, si on regarde le premier volume de la première édition du Grand Robert, on voit immédiatement la différence entre les trois autres volumes Alain Rey.
C'est sûr. Bon, ça s'est passé de l'intérieur et ça s'est passé en douceur. C'était la révolution tranquille ou la révolution de velours.
La révolution tranquille du dictionnaire.
Et c'est en grande partie grâce à la grande ouverture d'esprit et à la grande tolérance de Paul Robert. Parce que s'il y avait un seul point sur lequel il était un peu raide, c'était difficile de changer ses options, c'était les écrivains que je ne trouvais pas toujours être les meilleurs et qui étaient ses amis proches. Et là, bien sûr, il fallait respecter le quota de citations de Jules Romain, de Georges Duhamel, qui par ailleurs sont de très bons écrivains par moment, hein, bien sûr, mais dont il y avait une représentation un peu excessive par rapport aux surréalistes, par rapport aux poètes plus récents par rapport à des écrivains qui sont un peu en dehors de la norme comme Jean Genet, ou des écrivains qui apportaient une pensée un peu sulfureuse comme Sartre par exemple, et même Camus qui au début n'était pas toujours pris comme quelqu'un de... Et alors, je parle de Camus en particulier parce que le fait de travailler à Alger m'avait évidemment mis sur la piste d'un certain nombre d'écrivains qui avaient été formés par ce milieu difficile à l'époque.
Tu viens de citer Camus, justement.
Et Camus en faisait partie.
Tout récemment, en travaillant sur les essais de Montaigne, j'ai trouvé un lien entre les deux écrivains étonnant. Et le lien se fait avec ce que Camus a défini la pensée de midi. C'est-à-dire que ce n'est pas midi l'heure, mais la pensée de la Méditerranée.
La Méditerranée. Oui.
Et alors, il est extraordinaire de constater...
Midi, c'est mezzogiorno.
Mezzogiorno, oui, bien sûr. Mais là, il est important de constater, je pense, que le premier grand dictionnaire, après, bien sûr, Larousse, Littré et les autres, ne naît pas en France. Il naît à Alger, dans un contexte ouvert, international, c'était une ville d'Alger, disons, très ouverte à l'époque. Et cela, probablement, a donné une ouverture même à la langue. Cela t'a permis de dire qu'il faut s'ouvrir.
Oui, l'histoire de la langue raconte ça, parce que, d'une part, le français n'est déjà plus l'affaire de la France au Moyen-Âge, puisqu'on le parle en Angleterre.
Et
on le parle en Italie, on le parle autour de la Méditerranée, on le parle en Syrie, on le parle avec les croisades. Et ce rôle du français qui est de sortir de son lieu de naissance pour aller se promener un peu partout dans le monde m'a paru une des grandes chances de notre langue. Et je la partage cette chance avec un certain nombre de langues sur la planète, mais qui ne sont pas très nombreuses. Il y a une dizaine de langues qui se sont répandues loin de leur lieu d'origine. Le russe en fait partie, puisqu'on le parle jusqu'à Kamtchatka et en Sibérie. L'espagnol, bien entendu, à cause de l'Amérique latine. Le portugais, à cause du Brésil et de l'Angola. Et aussi le français, qui fait partie de ce peloton assez rare et assez étrange de langues qui naît sur un point de l'Europe, et plus particulièrement d'Europe occidentale, et que l'histoire a transporté un peu partout dans le monde, avec des chances variables. L'anglais a prospéré plus que les autres, mais avec cet inconvénient obligatoire qui est que plus une langue se répand sur la Terre, et plus elle risque de se cliver en plusieurs usages tellement différents les uns des autres que ça peut donner naissance à des langues différentes. Nous en avons un énorme exemple qui est le latin. Le latin médiéval donne en Ibérie le castillan et plus au nord le catalan. En France, le français et toutes les langues d'oc du sud.
Oui, quand on parlait de latin Italie, vulgaire.
L'italien qui a triomphé d'une quantité d'autres langues italiques.
Nous en avons encore des traces en Italie parce que Stendhal disait que toutes les 10 lieues, l'Italie change de langue.
Oui,
c'était toujours une langue latine, bien sûr, mais néo-latine, mais tout
sûr.
À fait.
Et ça, c'est une autre dimension, les Français en particulier, parce que les Suisses et les Belges le ressentent autrement, ont un peu l'illusion que leur langue est unique et qu'elle est parlée partout, parce qu'à cause de décisions politiques qui étaient la centralisation, qui ont été très, très positives pour le sort du français, bien sûr, mais qui, en même temps, ont été négatives sur le sort des autres langues avec lesquelles le français a été en contact. Donc les patois, les dialectes, toutes les variétés de la langue, qui sont si vivantes en Italie, qui sont si vivantes en Allemagne, ne le sont pas ni en France ni en Grande-Bretagne, où l'anglais a bouffé, pour parler familièrement, toutes les langues qu'il précédait et qu'il voisinait avec lui.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Donc ça, moi j'en ai tenu compte. Et il y a une autre ouverture aussi qui est fondamentale, c'est que bon dictionnaire n'est pas fait seulement pour les gens dont c'est la langue maternelle. Il est fait pour des gens qui le pratiquent parce que l'histoire leur dit de le pratiquer, mais qui ont d'autres langues à leur disposition. Je pense aux Africains, je pense aux Maghrébins, je pense aux Antillais avec le créole. Je pense, c'est tout à fait différent, aux Canadiens qui, eux, l'ont pour langue maternelle unique, parce qu'ils n'en avaient pas d'autre, et qui ont gardé ce français en se battant très fort contre l'emprise de l'anglais, qui politiquement aurait dû les manger tout cru au XIXe siècle, et ils ont été capables de résister. Et s'ils ont résisté, c'est qu'ils avaient une référence culturelle majeure, qui était celle du français d'Europe. Et je dis volontairement du français d'Europe et pas du français de France, parce que le rôle des Belges, le rôle des Suisses a été fondamental. On ne sait pas assez que, tu disais tout à l'heure que le dictionnaire important du XXe siècle, ce n'est pas le seul. Il ne faut pas oublier le dictionnaire de l'Académie, il ne faut pas oublier le trésor de la langue française, mais c'est un dictionnaire important. Mais je rappellerai que l'auteur du mot dictionnaire et l'auteur du premier grand dictionnaire français-latin et latin-français, Robert Étienne, est mort à Genève et pas en France, sous la protection de Calvin, parce que la Sorbonne l'avait très maltraité, avec des tendances protestantes,
oui,
qui se sont d'ailleurs réalisées
puis,
plus tard.
Il y avait la tendance latinisante de la Sorbonne, bien sûr, qui n'acceptait pas vraiment
bien sûr, mais
cette marche du français.
Les frères Étienne étaient de grands spécialistes du latin, l'un du latin et l'autre du grec, mais naturellement, leur innovation, ça consistait dans les études de latin et dans les études de grec de faire entrer la langue française. Et de faire entrer la langue française comme traduction. C'est-à-dire que le latin et le grec étaient une sorte de pivot sémantique et permettaient aux Français de se fixer et d'avoir une unité et une force qu'ils n'avaient pas auparavant au Moyen-Âge, où les dialectes étaient très puissants et où le français central n'avait pas cette autorité qu'il
a
pris au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, si ça s'est passé comme ça, c'est grâce à l'italien. C'est pas
bien
parce
sûr.
Que tu es là que je le
D'ailleurs,
dis, mais il est certain que...
Non, mais c'est vrai, Joachim du Bellay, dans sa défense, on a découvert que c'est vrai, il n'a fait que copier Speroni Speroni, qui avait fait un texte de défense de la langue italienne.
Italienne.
Alors, il a remplacé le mot italien par le mot français avec d'autres éléments. Il a adapté le texte.
C'est un peu trop dire.
Il y a chez Du Bellay une grande utilisation.
Une grande personnalité.
Absolument.
Poète que tout le monde connaît.
Mais je veux dire, il a préféré utiliser la force de l'italien
bien sûr.
Pour attaquer l'italien.
Bien sûr.
Et il a réussi. Mais
à l'époque, on attaquait l'italien parce que l'italien était omniprésent. L'italien avait pour le français du XVIe siècle à peu près la situation de l'anglo-américain pour le français d'aujourd'hui.
De nos jours.
Donc on se plaignait des excès. Et bon, ça, il y a des livres entiers, notamment du frère de Robert Étienne sur le français italianisé. Et nous avons gardé un grand nombre de mots.
Il y a au moins 2000 mots italiens dans le français d'aujourd'hui qui continuent encore.
Les trois quarts du vocabulaire de l'art et de la musique en particulier. Quand on parle de trombone, on n'a pas l'impression que c'est un augmentatif de la tromba qui est la trompette. Mais pourtant, c'est bien le cas. Donc nous trempons dans le latin, bien entendu, puisque c'est la source ultime, avec un apport considérable du grec, et on oublie trop souvent que le grec était la langue seconde des Romains, et que tous les gens cultivés à Rome savaient le grec, comme tous les gens cultivés en France jusqu'au XVIIIe siècle savaient le latin.
Et le latin, oui, bien sûr.
Et l'italien. Ménage, étymologiste de la langue française au XVIIe siècle, est un auteur qui commettait ses poèmes, parce que c'était surtout ça qui lui paraissait lui garantir la notoriété posthume, il se trompait parce que c'était l'étymologie en fait, et ce n'était pas les poésies, écrivait indifféremment des poésies en français, en latin et en italien.
Il connaissait même l'espagnol.
Il connaissait l'espagnol, mais il n'écrivait pas de texte en espagnol.
Pratiquement cette ouverture des langues. Alors, ce que tu viens de dire, Alain, me paraît fondamental pour introduire à nos auditeurs tes théories concernant la langue française, et donc le dictionnaire, bien sûr, parce que le dictionnaire est le reflet de la langue, de son histoire, de son actualité, et probablement même avec des perspectives sur l'avenir. Moi, j'adore, et je pense même les lecteurs adorent, un de tes livres intitulé « L'amour du français ». Et puis ton livre sur l'histoire de la langue française paru dans la collection Découverte chez Calimard, où tu prouves de toute évidence que le français est une langue ouverte au monde, ouverte aux autres pays, ouverte aux différents métiers, une langue très littéraire mais en même temps très populaire. Et c'est-à-dire que tout ce qui a été dit au XVIIe siècle, au XVIIIe, jusqu'à Rivarol, oui, ça existe bien sûr, mais il faut regarder l'histoire de cette langue d'une autre perspective, une perspective de richesse, oui, d'ouverture et pas de purisme.
C'est une immense richesse d'usages variés qui ont chacun leur raison d'être, qui sont appréciables en termes esthétiques, en plus ou moins positifs, bien entendu. Il y a des usages contemporains qui ne nous plaisent pas, mais il n'empêche qu'ils ont une réalité sociale et qu'on est bien obligé d'en tenir compte. Et puis, ce que je remarque, c'est que les usages les plus divergents et les plus critiqués à chaque époque finissent par s'user et une partie de ces usages va entrer dans la langue commune. Et là, plus personne ne va contester. On se bat contre les anglicismes récents, mais plus personne ne va être gêné parce qu'on dit un beefsteak.
Bien sûr.
Ça paraît tout à fait. Ou un steak.
Oui.
Ou un rail.
On ne sait même plus que c'était mot anglais. Non. C'était mot entré.
Et parfois, ces mots-là, avec les rapports très particuliers que le français a avec la langue anglaise, sont des mots français qui ont été pris par l'anglais et qui sont revenus sous la forme anglaise. Je pense en particulier à cette chose très drôle qui est que le tunnel qui sert aujourd'hui, pas seulement au chemin de fer, mais aux autoroutes.
Aller à Londres aussi.
Eh bien, ce tunnel n'est autre que la tonnelle française, la forme ayant été prononcée à l'anglaise et utilisée par les ingénieurs anglais à l'origine, beaucoup, qui ont construit les premières voies de chemin de fer en France dans les années 1830-1840. Et leur tunnel n'était jamais que la tonnelle. De même que le tennis, qui venait d'Angleterre, comme chacun sait, n'était qu'une prononciation déformée de l'impératif « tenez » que faisaient les joueurs de jeu de paume quand ils lançaient la balle. Donc, c'est un phénomène de ping-pong à travers la Manche qui est constant dans l'histoire et qui est intéressant parce que ça montre aussi que nous avons avec la langue anglaise des rapports très très particuliers. Nous avons avec les langues voisines des rapports souvent de fournisseurs de mots. Il y a énormément de mots français dans les langues slaves, en polonais, en bulgare, en russe, etc., que l'on retrouve avec amusement, par exemple, avec la morphologie du russe. Le génitif d'un général en chef, c'est « general en chefou » et c'est « general en chef » qui est devenu un mot composé russe. Et on ne s'étonne pas à ce moment-là de voir des bribes de langues de phrases françaises dans « La guerre et la paix » de Tolstoï en russe. Alors ça veut dire que non seulement, ça ne veut pas dire ce que croyait Rivarol, c'est-à-dire que le français dominait et que tout le monde était à genoux devant le français, mais ça veut dire que les langues s'interpénètrent. À partir du moment où il y a des relations entre les sociétés, elles se prêtent des mots, elles se donnent des mots, elles se volent des mots, elles s'échangent des mots, et parfois elles se les échangent comme des cadeaux, et parfois elles se les échangent comme des projectiles.
Naturellement, c'est les langues qui s'échangent, mais c'est les hommes, c'est la communauté humaine. Donc,
Il faut revoir
un peu, disons, la situation de l'Europe, de la Méditerranée, de cet espace aéroméditerranéen qui va très loin jusqu'au Moyen-Orient. La langue française est le résultat, et tous ces dictionnaires, même les plus puristes, ils sont obligés de citer, bien sûr, parce qu'ils sont entrés dans l'usage commun, des mots qui viennent de loin, d'autres langues, d'autres mondes.
Des mots, des expressions, des sens, naturellement. Et c'est intéressant parce que quand on traduit ça en termes de dictionnaire, on s'aperçoit très vite que faire un dictionnaire seulement pour les gens dont c'est la langue maternelle, ça conduit à ne pas expliciter des choses qu'il faut expliciter et qui sont utiles
à une fermeture
pour ceux qui apprennent la langue en venant de l'extérieur. Alors, encore une fois, ça peut être des communautés entières, par exemple les Québécois qui ont leurs usages, et il faut décrire ces usages dans les dictionnaires français généraux, et ça peut aussi concerner tous ceux qui, à travers le monde, souhaitent apprendre le français et l'apprennent. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Ukraine et j'ai été absolument frappé pour voir l'importance de l'enseignement du français. Bien sûr, on apprend beaucoup l'anglais pour des raisons pratiques, de commerce, d'échange, etc., mais en grande partie pour lutter contre la prépondérance du russe sur la langue ukrainienne, qui était considérée comme une langue un peu de paysans, un peu de gens pas très cultivés dans les grandes villes, on préférait parler russe, c'était signe de culture. Et maintenant, depuis l'indépendance de l'Ukraine, il y a un grand mouvement en faveur de l'ukrainien. Et dans les langues étrangères, on a un peu l'impression que le français joue par rapport à l'anglais le rôle que l'ukrainien joue par rapport au russe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de code d'amour pour le français que j'ai ressenti parce que des conférences avec 300 ou 400 personnes entre 15 et 30 ans, il n'y avait que des jeunes qui étaient en cours d'études, m'ont énormément surpris quand j'ai vu la qualité du français de ces gaillards qui n'étaient jamais allés ni en Belgique, ni en Suisse, ni en France, ni au Québec. Ouais, et qui avaient appris le français sur place et
au colloque et très bien. Que j'ai organisé à l'Université de Paris sur toute ton œuvre, tous tes dictionnaires, tu te souviendras, il y avait une collègue de l'Université pédagogique de Moscou,
oui,
madame Elena Grigorova, qui ne connaît pas la France. Mais oui. Qui parle le français mieux que les Français.
Qui parle
c'est
bien,
étonnant. Donc, oui, oui. Alors, je pense que là, il faudrait toute une politique
bien
pour
sûr.
Relancer ce dialogue entre les pays, les universités, les écoles, et redonner à nos jeunes donc, ce besoin et cette joie des langues.
Oui, c'est-à-dire que si tu veux, quand on aborde la description d'une langue, on a un double problème qui est très difficile à calibrer. Parce que d'un côté, il faut donner les moyens de l'apprendre, donc avoir une certaine norme et assurer une certaine qualité de discours, en étant d'une certaine manière, obligatoirement, à certains moments, un peu puriste. Souvent, on m'accuse de laxisme. C'est pas vrai. Je suis forcément puriste et je fais un dictionnaire. Mais en même temps, il faut que ce purisme soit pluriel. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait une autre façon de bien parler qui n'est pas la parisienne quand on est à Montréal ou quand on est à Bamako ou quand on est dans différents endroits du monde où on parle français.
La norme est l'arbre de la langue. Et puis,
il y a les usages. Et les usages, ce sont les êtres humains.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la langue, la langue est une abstraction. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une abstraction nécessaire, un petit peu comme la société, l'État, le gouvernement sont des abstractions. Et puis derrière, il y a les individus qui comptent plus que tout.
Ceux qui agissent.
Et les individus construisent des usages. Et ces usages peuvent être différents. Et ils peuvent être admirables. Alors, on les perçoit, ces usages, quand ils sont déviants. Et on les perçoit pour leurs défauts. Mais on pourrait très bien les percevoir pour leurs qualités. Il y a un français des écrivains africains qui a certaines rhétoriques qui ne sont pas celles de l'écrivain parisien. Et qui sont souvent plus respectueux des règles traditionnelles de la grammaire française que les Parisiens qui vont faire une espèce de calque de la langue parlée qui va être en rupture avec le français de l'école, avec le français écrit. En plus, les écrivains africains transmettent une civilisation qui n'est pas la nôtre, avec un imaginaire qui n'est pas le nôtre. Et on a des écrivains comme Amadou Ampateba, qui, dans un français parfait, font passer une expérience africaine directement dans cette langue, alors qu'ils ont à leur disposition d'autres langues, mais dans lesquelles ils n'écrivent pas parce qu'ils n'auraient pas de lecteurs. Donc, ils sont contraints par l'histoire d'employer le français. Et moi, je considère que ces gens-là sont les bienfaiteurs de la langue française, parce qu'ils l'enrichissent, ils l'ouvrent et ils lui confèrent des pouvoirs qu'elle ne pouvait pas avoir au départ.
Ils ne demandent rien. Ils sont au service de la langue.
Oui, même parfois en détestant ce qui leur fait employer la langue. Mais
oui, parce qu'il y a la tradition.
Indirectement et involontairement, ce sont des serviteurs de la langue.
Même Senghor, qui est l'écrivain que l'on connaît,
bien sûr.
De temps en temps, il se lançait un peu contre cette situation qu'il avait conduite en France. Il n'avait pas laissé dans son pays. Je pense, en interprétant, disons, la pensée des auditeurs de Canal Académie, je pense que tout le monde s'attend de toi, comme lumière de la langue française aujourd'hui, des mots sur l'avenir. Alors, quel est l'avenir de la langue française? Parce que de temps à autre, la presse, les médias, les livres, les universitaires, les académiciens se plaignent. C'est une langue qui va avoir des problèmes.
Elle en a, elle en a. Elle en a seulement quand on me dit le français est malade, je dis d'accord, le français est comme tout organisme vivant en proie à la maladie éventuellement, mais je ne connais que deux sortes de langues, des langues malades et des langues mortes. Et je préfère être du côté des langues malades
c'est
qui sont vivantes que du côté des langues mortes.
C'est une malade qui va guérir.
Alors c'est une langue malade qui soigne ses maladies et le problème est de mettre sur pied une bonne thérapeutique. Non pas une thérapeutique traditionnelle, transmise, la médecine galénique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut avoir recours à des remèdes plus nouveaux et plus inventifs. Et moyennant quoi, je pense que le français, je ne suis pas pessimiste, bien que
moi non plus.
Il y a des problèmes d'adaptation du français aux besoins de désignation qui le conduisent parfois à être trop accueillant au néologisme anglo-saxon, c'est un fait. Mais s'il est accueillant au néologisme anglais-saxon, c'est aussi qu'il en a besoin.
Bien sûr.
Alors, donc, si ce sont des phénomènes de pure mode, consolons-nous. Cocteau disait, la mode, c'est ce qui se démode. Et tout ce qui est mode est conduit à disparaître, est transitoire. Et d'autre part, ce qui n'est pas mode, ça répond à un besoin.
C'est le fugitif et l'éternel dont
j'aimerais mieux que le besoin soit comblé par des moyens internes à la langue française. Mais je constate quand même, sur 50 ans d'observation, que le français est beaucoup plus créatif qu'il ne l'était il y a 50 ans. Que les dérivations sont plus fréquentes, la composition est plus vivante, mais naturellement, le phénomène d'emprunt, il ne faut pas se gendarmer contre lui, parce qu'il peut être un élément d'enrichissement tellement énorme que si l'anglais est une langue mondiale aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au français. C'est parce que la langue anglo-saxonne était assez pauvre, insuffisante pour répondre aux besoins de désignation au moment où le français commençait à se perdre, c'est-à-dire au XIVe siècle et au XVe siècle. C'est-à-dire, il y a des passages en français chez Shakespeare, personne ne le sait.
La guerre de 100 ans.
Et je les ai cités dans le Grand Robert parce que je trouvais ça formidable. Et chez Shakespeare, c'est un souvenir lointain. Le français fait rire, le français est déjà complètement oublié. En revanche, à mesure qu'on ne parle plus français au Royaume-Uni, on a besoin des mots du français pour exprimer toutes les réalités.
Et Shakespeare les utilise, absolument.
Mais absolument. Shakespeare emploie toujours les mots d'origine anglo-saxonne et les mots d'origine latine, et souvent il les emploie ensemble. Par exemple, il dit « this royal king », qu'on ne peut pas traduire en français, parce que c'est ce roi royal, c'est ridicule, c'est le même mot. Mais en anglais, « king » est un mot des anciens petits souverains anglo-saxons du haut Moyen-Âge, et « royal » faisant passer, comme « regal » d'ailleurs, le latin et le français, on a un double monde qui est exprimé en même temps. On aurait pu croire que l'anglais allait être abîmé par ce flot d'emprunt français énorme. Pas du tout, c'est le contraire qui se
produit. C'est la preuve.
L'anglais est une langue double, d'une richesse de vocabulaire que peu de langues peuvent avoir, et qui, du coup, en acquiert des richesses supplémentaires.
Et qui garde encore son ouverture.
Alors moi, je pense que les mots africains, les mots bretons, les mots basques, les mots de toutes les langues avec lesquelles le français est en contact, en passant dans la langue française, ne peuvent que lui rendre service et l'améliorer. Même le verlan, on peut ne pas aimer ça, mais voilà, on disait le français n'est pas créatif, mais voilà une créativité nouvelle.
On a compris que votre complicité était grande et que votre amour de la langue française
et internationale.
Merci à vous deux, à bientôt. Merci.